Bari yu bai diri di bai yam da dam bum 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 bum. Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour, à Good Morgen, Shalom Aleichem. Voilà, aujourd'hui c'est Annette toute seule, puisque Astrid a d'autres occupations. Cette émission sera diffusée donc, le dernier jour de Hanouka, donc je vais vous raconter une petite histoire de Hanouka, bien sûr venant du monde yiddish. Donc cette fois c'est une nouvelle de Israël Yehoshua Zinger, donc le frère du plus célèbre Isaac Bashevis, mais qui est également un très très grand auteur, peut-être avec un style plus élaboré et même des histoires mieux conçues que chez Isaac Bashevis-Zinger. Isaac Bashevis-Zinger écrivait beaucoup, mais des fois c'est pas toujours très logique, où il y a des répétitions, le style de Israël Yehoshua est plus tenu, voilà. Donc là, c'est extrait d'une série de nouvelles qui s'appelle Printemps et autres saisons, qui ont été traduites du yiddish par Monique Charbonnel-Greenhaus, qui est la traductrice attitrée de Zinger, en tout cas des œuvres récentes, puisqu'il y a eu une traduction de ses œuvres les plus connues, les frères Ashkenazi, Yoshke le Fou, qui ont été traduites déjà assez tôt. Et puis dans les dernières années, il y a eu la traduction d'autres œuvres, La famille Karnowski, Printemps et autres saisons, et puis Wolf, fils de Herschel, devint Willy, voilà. Ça a aussi été traduit. Tout ça a été traduit par Monique Charbonnel-Greenhaus. Voilà. Et donc là, c'est une série de nouvelles qui s'appelle Printemps et autres saisons. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une nouvelle qui s'appelle. Comment s'appelle-t-elle l'ensemble ? Sur la tombe des parents, je vais lire un extrait. Donc c'est l'histoire de Monsieur Goldblum, qu'on appelle Mr. Goldblum. Pourquoi ? Parce que c'est un jeune juif qui s'est installé aux États-Unis, à New York. Il vit à New York, où il mène une vie difficile, dans des conditions pas absolument excellentes. Mais enfin, il a quand même une boutique de Il est horloger, donc il vend des montres, ça se passe pas trop mal. Et puis un jour, il décide de partir parce qu'il ne supporte plus la chaleur de New York. Tout d'un coup, il se dit, mais si je retournais dans mon shtetl, et là-bas, je vais dire le kaddish sur la tombe de mes parents, et puis je vais ériger une pierre, une matzev. Voilà, donc il part. Il fait le voyage, il arrive dans ce shtetl où il est reçu vraiment comme un roi, parce que le fait que quelqu'un revienne des États-Unis, c'est vraiment un événement dans ce petit village abandonné. On lui demande tout de suite de faire des dons pour différentes associations, donc il fait des dons, donc tout le monde le prend pour vraiment un richard, un juif qui est parti aux États-Unis et qui a très bien réussi, ce qui n'est pas tout à fait son cas. Et puis il se plaît beaucoup dans ce shtetl, en plus comme il le dit, la vie n'est vraiment pas chère, hein, donc avec $1 il peut s'acheter beaucoup de choses. Et puis, finalement, il reste. Donc, en fait, il est venu en été. Et puis, maintenant, l'automne approche. Et puis, même, Hanouka approche. Et voilà. Et il y a surtout, dans ce shtetl, une jeune fille qui s'appelle Dinele et qui lui plaît bien. Et puis, elle aussi, elle aimerait bien... elle rêve de New York. Et donc, elle aimerait bien être plus proche de lui. Voilà. Donc, je vais vous lire le passage. Un passage, c'est le numéro 4 dans le livre. Oui, j'ai oublié de dire que c'est édité aux éditions de l'Antilope, très jolie édition. Parmi les jeunes filles de Dembitze, donc Dembitze c'est bien sûr le shtetl, celle qui passait le plus de temps auprès de Mr. Goldblum, c'était la belle Dinele, la fille de Reb Jonas, le négociant en bois établi non pas en ville mais très à l'écart, juste à la lisière de la forêt. Chaque fois que les jeunes filles venaient dans la forêt avec l'étranger, Dinele invitait la compagnie chez elle. Elle les régalait de toutes sortes de sirops, de baies, de fruits des bois qu'on trouvait toujours chez elle en abondance. Elle regardait l'étranger de ses immenses yeux noirs qui lui mangeaient la moitié du visage et la faisaient ressembler à une actrice de cinéma. Elle le bombardait de questions sur les mers, les bateaux, les villes, les maisons, tous les aspects de la vie en Amérique. « Est-ce que New York est vraiment comme au cinéma ?» demandait-elle. « Sure !» répondait Mr. Goldman. « Et les automobiles, il y en a vraiment autant ? Et les maisons qui touchent presque les nuages et toutes ces lumières ? Sure ! Vous vivez vraiment dans ce New York ? Sure ! Comme je vous envie !» s'exclama-t-elle, rêveuse. Mr. Goldblum ne savait pas trop quoi dire. Il ne voulait pas penser à ce New York qui se liquéfiait dans la chaleur caniculaire, à Delancey Street, à Tsipine, son boss irascible, à son petit logement de Brownsville où résonnait en permanence le vacarme des logements voisins. Il ne trouvait rien de bien à dire de cette ville. « Ici, c'est mieux !» murmura-t-il parfois en montrant la forêt. Mais Dinele secouait énergiquement la tête. Non, non, elle n'était pas d'accord. Il n'osait pas la contredire. Il avait peur d'elle. Quand elle lui parlait, il baissait les yeux. Elle ressemblait à ces jeunes filles que lui, Nathan Goldblum, avait vues tant de fois au cinéma, mais dont il n'avait jamais eu l'audace de penser possible de faire leur connaissance. Elle était étrange, cette Dinele, la fille de Jonas, le marchand de bois. Bien que née et élevée dans la forêt, elle n'avait rien de commun avec les jeunes filles des bourgades environnantes. Quelque chose en elle rappelait les femmes peintes sur les tableaux, les héroïnes de romans. On l'aurait dite étrangère, originaire d'une grande ville. Ce quelque chose, on le trouvait dans sa pommade, dans sa silhouette élancée, dans ses yeux qui lui mangeaient la moitié du village, dans ses solides dents blanches et dans la raie claire qui séparait ses cheveux lisses d'un noir de jais. « Elle est bizarre, » disaient les jeunes filles, les autres jeunes filles jalouses. Cette fille de négociant en bois, petite fille, arrière petite fille de juif forestier, détestait la forêt, la campagne et les petites bourgades. Elle se demandait pourquoi, dans leurs livres, certains écrivains se plaisaient à décrire si longuement les villages, les bois et les rivières. Petite déjà, elle était attirée par la lumière, la beauté et l'éclat des grandes villes. Dans son enfance, ses lectures préférées avaient toujours été les livres illustrés, représentés des belles dames et des seigneurs avec des palais et des domestiques. En grandissant, elle avait dévoré les romans français où il était question de salons, de carrosses, de métropoles aux rues luxueuses, de théâtre, de musique et de lumière. Pour elle, le comble du bonheur, c'était lorsque son père l'emmenait dans la grande ville et la laissait aller au cinéma ou au théâtre avec une amie. Ensuite, pendant des mois, elle gardait le souvenir de ce qu'elle avait vu à la scène ou à l'écran. Ce qui l'enthousiasmait le plus dans les films américains, c'était les scènes d'amour et celles qui montraient la richesse, le faste. Elle ne voulait pas voir les scènes de misère. Les yeux écarquillés, elle regardait les énormes maisons des quartiers huppés où toujours près de l'entrée se tenaient des domestiques en livrée grand et fort, prêts à vous ouvrir les lourdes portes vitrées ou les portières d'automobiles étincelantes. Tout était si beau en Amérique. Les hommes mûrs étaient si distingués avec leur chevelure d'un blanc de neige. Ils se tenaient si droits. Les femmes étaient si bien faites. Même les chiens étaient minces et hautains comme leurs maîtresses. D'accord, ses fiers parents ne voulaient pas que leur fille épouse le jeune athlète dont elle était amoureuse. Plus tard, quand la fille se jetait aux pieds de son père, embrassait sa tête blanche et l'implorait « Please, Daddy !» Il cédait. Le pasteur, avec son visage solennel des jours de fête, les unissait devant Dieu. Elle comparait cela à sa vie, à son shtetl, avec ses habitants voûtés, préoccupés, toujours à se plaindre et à l'éprouver du dégoût pour tout ce qui l'entourait. Tout ce qui était beau, bon et grand se trouvait là-bas, dans ce pays situé quelque part au loin qu'on voyait dans les films. Aussi, depuis que Mr. Goldblum était arrivé, elle se tenait en permanence à ses côtés. Et cette cravate que vous portez, elle a vraiment été fabriquée en Amérique ? Les jeunes filles du shtetl en voulaient à Dinelle, qui ne quittait pas l'Américain d'une semelle. Dinelle n'était pas une fille pauvre. Son père pouvait associer son gendre à son commerce, ce qui valait mieux qu'une dot. Et puis tous les garçons de la ville étaient secrètement amoureux d'elle. De jeunes forestiers, robustes gaillards au visage hâlé, se consumaient d'amour pour elle. Plus d'une fois, elles en avaient touché deux mots. Mais Dinelle ne voulait pas entendre parler d'eux. Elle ne leur accordait pas un regard. Elle savait quelle vie l'attendait avec eux. La forêt de longues, de sinistres soirées d'hiver. Des gens tristes, hargneux, frigorifiés, emmitouflés. Un mari toujours par monts et par veaux qui n'a affaire qu'à des sieurs et des paysans. À la maison, rien d'autre que la cuisine, le linge, la vaisselle. Et en permanence, assis dans la cuisine à même le sol, des paysans, des bûcherons qui, en attendant de toucher leur salaire, fumeraient, grogneraient, cracheraient, sentiraient mauvais et diraient des grossièretés. Non, elle ne voulait pas d'une telle vie. Elle s'était toujours vue ailleurs, parmi ces personnages dépeints dans les livres ou visibles sur les écrans, vivant dans la joie, le mouvement, le faste et la lumière. Voilà, je vais un petit peu interrompre la lecture avec un morceau instrumental qui vient d'un CD qui s'appelle « En allant à Üsküdar », qui est joué par un groupe klezmer, les Oreilles d'Aman. Donc voilà, nous sommes là dans ce monde du klezmer qui est vraiment très très riche, avec plein de groupes tout à fait intéressants. Et donc là, c'est un groupe qui joue, composé de Léa Platini, Mathilde Dupuche, Thomas Bourgeois, et qui joue du klezmer. Voilà, nous allons entendre un Freiler qui s'appelle Primal Freiler.
Bye.
Voilà, donc le temps passe, le Mr. Goldblum n'arrive pas à quitter ce Dembetse. Et il est attiré par Dinele, mais en même temps, il a le sentiment qu'il lui ment. Et donc, il est très, très perturbé par cela. La nuit, dans sa chambre d'hôtel, il souffrait le martyr et se demandait quoi faire. Parfois, il prenait la décision de tout raconter à Dinele, de lui parler de ses montres, de son atelier sur Dell Ancestry, de son logement exigu à Bronzeville. D'autres fois, il pensait se lever et partir sur le champ. Rester sur le bon souvenir d'un été à Dembitse. Mais il manquait de courage pour cela. Il avait encore moins de courage d'aller voir celle qu'il désirait tant et de tout lui dire. Voilà, donc le temps passe, et voici que nous arrivons à Hanouka avec la description d'une fête, donc dans le shtetl. À l'occasion de Hanouka, la bibliothèque Herzl avait organisé une soirée costumée, un bal masqué avec élection d'une reine de beauté, comme cela se pratiquait dans les grandes villes. Les jeunes se préparaient, les garçons repassaient le pli de leurs pantalons, les filles se lavaient la tête avec de la neige fondue. Dinele, la fille de Reb Jonas, le marchand de bois, et Mr. Nathan Goldblum, l'Américain, se préparèrent avec plus de soin que les autres. La salle au plafond bas de la bibliothèque Herzl était bondée. Sur ses murs déformés, gonflés d'humidité, faute de chauffage régulier, de nombreuses photographies de sionistes et d'écrivains étaient accrochées. Le plafond fendu, noir de fumée, était orné de lanternes en papier, de serpentins et de guirlandes multicolores. De grosses étoiles de David bleues et blanches dissimulaient les taches sur le poêle. Les tables et les bancs abîmés avaient été remisés dans le vestibule. Les musiciens du shtetl arrivèrent avec leurs violons, leurs contrebasses et leurs flûtes. L'unique pompier de la ville était également venu, un jeune gars en uniforme qui jouait d'une grosse trompette. Beaucoup de participants étaient déguisés. Ils s'étaient changés dans le vestibule, là où s'entassaient les tables et les bancs. Car s'ils s'étaient costumés chez eux, il leur aurait fallu traverser la place du marché dans cette tenue. On s'interpellait. « Ne me regarde pas, je ne veux pas qu'on me reconnaisse !» Après l'allumage des bougies de Hanouka et un long discours en hébreu moderne par le professeur d'hébreu de Dembitse, où il était question des Asmonéens et du sionisme, le pompier entonna à la trompette l'hymne sioniste Hatikva. Les quelques pionniers venus en tenue, donc Khaloutsim, hein, les pionniers venus en tenue de sport se tenaient au garde à vous, la main au front raide comme des soldats. Les filles déguisées en femmes arabes, en gitanes, en paysannes des montagnes, les garçons en cheikh, en rabbins, en voyous, faisaient mine de ne pas se reconnaître, flirter, s'aguicher et échanger à voix basse des propos un peu légers. Oui, alors je fais une petite remarque, c'est-à-dire que actuellement, on ne se déguise plus qu'à Pourim, hein, et là, nous avons des gens déguisés pour Hanouka. Donc, j'essaye de trouver la date de. Je ne sais pas à quelle date ont été écrites ces nouvelles. Celui qui eut le plus de succès fut Mr. Nathan Goldblum, l'Américain. Dans son smoking neuf, bien ajusté, avec ses souliers vernis, son gilet d'un blanc immaculé, son visage impeccablement rasé, ses cheveux plaqués comme avec de la poix, il déambulait au milieu du public d'une démarche posée et digne, assiégé de toutes parts par des tziganes, des arabes, des paysannes qui tentaient de le séduire. Dina était accrochée à son bras droit. Elle n'était pas costumée, elle rayonnait de sa beauté naturelle. Avec ses yeux immenses, embués de bonheur et de fierté, elle ressemblait aux superbes actrices de cinéma, aux stars des films américains. Dinele l'encouragea et le fit danser. Il s'en mêlait les pieds, ne parvenait pas à suivre le rythme. Elle n'y prêtait pas attention. Elle serrait son corps jeune et ferme contre lui. Elle posa même sa tête contre son cou. Il ferma les yeux. Quand on passa à l'élection de la reine, il vota pour elle. Un peu plus tard, un bonnet vert sur la tête, assis sur l'estrade, il compta les bulletins sortis un à un d'un chapeau noir. « Dina !» répétait-il d'une voix tremblante. Coiffée de la couronne en papier doré qu'on avait posée sur ses cheveux noirs, elle avait un air si majestueux que même les autres jeunes filles ne purent s'empêcher de la dévorer des yeux. Tard dans la nuit, alors qu'il la raccompagnait chez elle en traîneau, Dinelle lui demanda de se rapprocher parce qu'elle avait froid. « Donnez-moi la main, » ordonna-t-elle. Mr. Goldblum lui tint la main mais ne dit rien. Une fois de plus, elle se mit à parler de l'Amérique. Elle balbutia les quelques mots d'anglais qu'elle avait appris de lui, puis susurra. « Emmenez-moi dans votre valise. » Mr. Goldblum sentit son cœur se gonfler d'un brusque afflux de sang. Il voulut lui montrer qu'il n'était pas aussi incapable de parler qu'il en avait l'air, et il osa une galanterie. « Pourquoi dans ma valise ? Pourquoi pas dans ma cabine ?» Effrayé par ses propres paroles, il voulut aussitôt dire autre chose, mais au même instant, deux bras entourèrent son cou et deux lèvres brûlantes se posèrent sur les siennes. « Darling !» murmura la jeune fille comme elle l'avait entendu dans les films américains. Mr. Nathan Goldblum fut si stupéfait qu'il resta pétrifié sur son siège, incapable de répondre à ce baiser. Quelques jours plus tard, un samedi soir, il se fiançait à Dinelle, la fille de Reb Jonas, le négociant en bois. Voilà, donc nous avons cette histoire qui se noue à Hanouka, hein, cette décision de mariage. Ils se marient, ils partent, mais il n'y a pas du tout une happy end, c'est-à-dire que la vie aux États-Unis n'est pas du tout comme Dinelle se le représentait. Et donc en particulier, on est donc maintenant de nouveau en été, il fait extrêmement chaud, ce qui est décrit par Zinger. Un ardent soleil de juillet écrasait les ruelles périphériques de Brownsville et faisait rôtir dans une même fournaise les toits rouges, les landaux garés devant les portes, les vieux journaux, les fruits pourris, noyaux et autres détritus qui jonchaient l'asphalte brûlant, ramolli par la chaleur. Donc Dinelle est là. Elle est enceinte, elle souffre extrêmement de la chaleur qu'elle ne connaissait pas dans son shtetl. Et lui-même ne l'aime plus parce qu'il trouve que maintenant elle est devenue laide. Et voilà comment se termine cette nouvelle avec assez amère. Dans son lit brûlant, baigné de sueur, donc c'est Nathan Goldblum, il se rappela horrifié que pris dans l'incessant tourbillon de Dembitze, il avait oublié une chose, commander une pierre tombale et se rendre sur la tombe de ses parents. Voilà, donc ça c'est la fin d'un humour noir, je dirais, et toujours une écriture extrêmement soignée. Donc ça c'est Israël Yehoshua Zinger. Voilà, on va terminer en écoutant encore un petit morceau de musique et je vous dis joyeux Hanouka pour les derniers jours. Shalom Aleichem et à la semaine prochaine. Thank you. Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualité.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.
Aïe aïe aïe.